Un coach à la une.
Aujourd'hui, dans Un coach à la une, je vous propose de mettre à l'honneur l'arbre de vie. Cette pratique narrative part de l'idée que les récits de nos vies portent intrinsèquement des enseignements riches pour relever nos défis et nos challenges. Pour parler de ce thème, je reçois la coach Dina Scherer, qui est l'une des pionnières dans l'utilisation de cette pratique narrative. Elle a récemment sorti chez Interédition le livre « Accompagner avec l'arbre de vie, une pratique narrative pour restaurer l'estime de soi ». Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouvel épisode d'Un coach à la une, écoutez cette femme passionnée qui nous partage sa conviction profonde, quel que soit l'âge, quel que soit le contexte, quel que soit l'enjeu, il est toujours possible d'accompagner les clients du côté de la vie.
Un coach à la une. Écoutez, un professionnel vous dévoile un élément clé de sa pratique du coaching.
Dina Scherer, bonjour.
Bonjour David.
Comment en es-tu venue au coaching ?
J'ai été pendant 20 ans directrice du développement et de la communication d'un des plus grands groupes de publicité. Au bout de 15 ans à peu près, ce qui me mettait en énergie n'était plus là, donc je me suis dit, il faut que je me réinvente, mais je ne savais pas tellement quoi faire d'autre. C'est une amie qui m'a dit « je te verrai bien coach ». Alors, je ne savais pas trop pourquoi elle me disait ça. Je n'avais jamais été coachée moi-même. Elle pressentait que je serais bien dans ce métier. Je m'y suis intéressée. C'est un métier qui m'a plu parce que je me suis aperçue que je n'aimais plus mon métier, mais ce que j'aimais vraiment fondamentalement, c'était d'accompagner les gens, de manager. Les gens adoraient travailler avec moi. Je pensais que j'étais sympa, mais pas que. J'ai toujours aimé faire grandir les gens. Du coup, tout naturellement, mais pas m'ont guidée vers l'accompagnement. Je me suis formée, j'ai refait des études et depuis 12 ans, je suis coach. Et aujourd'hui, j'accompagne des hommes et des femmes dans leur vie au travail. J'ai choisi aussi de mettre ma pratique au service des jeunes en grande difficulté scolaire et des jeunes dans leurs projets d'orientation.
Alors, tu as récemment sorti le livre « Accompagner avec l'arbre de vie, une pratique narrative pour restaurer l'estime de soi » chez Interédition. Pourquoi t'être intéressée à cette pratique narrative et depuis quand l'utilises-tu ?
D'abord, la pratique narrative, parce que l'arbre de vie, c'est un outil issu d'une pratique qui s'appelle les pratiques narratives. Je me suis d'abord intéressée aux pratiques narratives, c'est-à-dire que je me suis formée au coaching tout simplement, plutôt généraliste, mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé un superviseur qui était formé aux pratiques narratives en fait. Mais bon, moi je m'en foutais un peu. J'avais juste constaté que les séances de supervision avec lui étaient juste géniales. C'est-à-dire que je lui racontais mes premiers pas dans le coaching, où je me sentais assez nulle, et à chaque fois que je sortais de chez lui, je me sentais hyper douée en fait. Je dis mais qu'est-ce qui se passe ? C'est une pratique très ressourçante, qui dignifie les personnes. Je ne sais pas si ce mot existe, mais en fait, on se sentait digne, fort, après chaque séance. Donc, je lui en ai parlé. Il m'a raconté ce qu'il mettait en pratique avec moi. Du coup, je me suis formée aux pratiques narratives, parce que je me suis dit, si ça me fait autant de bien, ça va faire du bien aux personnes que j'accompagne.
Depuis le début de ta pratique, tu t'es intéressée aux pratiques narratives, et du coup,
absolument,
tu t'es formée dans la foulée de ta première formation, c'est ça ?
La première année, mais je me suis aussi formée à plein d'autres choses, hein, parce que j'adore me former aux techniques d'accompagnement. Je suis formée à l'hypnose ericksonienne, à l'approche systémique, la communication non violente, enfin bref, à plein de choses. Ma pratique principale, c'est les pratiques narratives. C'est vraiment ce qui colore ma pratique et ma posture, parce que c'est une pratique vraiment de regradation des personnes. C'est vraiment une pratique qui honore le plein des gens.
Peut-être nous parler d'où proviennent ces pratiques narratives. Je crois que c'est le monde anglo-saxon.
Oui, les pratiques narratives ont été initiées par deux personnes, Michael White, qui est australien, et David Epstein, qui est néo-zélandais. Ces deux amis qui ont créé cette pratique fin des années 70. Ce n'étaient pas des coachs à la base, hein, c'était des thérapeutes familiales et travailleurs sociaux. Quand ils ont décidé d'initier cette pratique, c'était pour trois raisons. Accompagner les minorités, c'était très engagé, très militant. Accompagner les gens qui souffrent et restaurer les identités abîmées. Il y a plein d'endroits où on abîme les identités, les écoles, on peut ne pas réussir à l'école et on devient quelqu'un qui a raté ses études, etc. Les entreprises aussi abîment les identités. Les familles, parfois, où on ne se sent pas à sa place, pas reconnu, etc.
Et c'est arrivé en France en quelle année ?
La première fois que Michael White est arrivé en France, c'était en 2004, invité par Mediate Coaching, qui était déjà une école de coaching.
Donc il y a presque 20 ans, en fait.
Il y a presque 20 ans, absolument.
Mais 30 ans après la création, quasiment.
Exactement.
Il a fallu un peu de temps pour que ça traverse les océans.
Oui, oui.
Et pourquoi c'est bienvenu dans le cadre d'un coaching, les pratiques narratives ?
Déjà, je voudrais dire que la France a été assez précurseur, parce que ce n'était pas du tout destiné aux personnes en entreprise. David Epstein est venu, un des deux, parce que Michael White est décédé maintenant. On l'a invité trois fois à Paris, et quand on lui dit qu'on amène les idées narratives dans les organisations, il est très curieux de savoir comment on fait avec les idées narratives dans les organisations, comment on arrive à les utiliser en entreprise avec des managers.
C'est intéressant comment finalement les coachs français se sont appropriés ces différents outils, ces différentes pratiques et l'ont adapté hein, à la pratique du coaching.
Oui, absolument.
Tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc du coup, qu'est-ce que vous lui racontez à ce créateur lorsqu'il vous interroge sur l'utilisation dans les entreprises?
Il n'y a pas tellement de différence, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui souffrent dans les organisations et que les concepts, par exemple, il y a un concept narratif qui est que la personne n'est jamais le problème, par exemple. Donc si la personne n'est pas le problème, il faut bien que le problème soit quelque part. On va enquêter, souvent c'est dans le contexte, c'est dans la relation, c'est exactement pareil dans les organisations. Souvent on désigne une personne comme étant le problème, on la vire et le problème est toujours là. Je fais beaucoup de gestion de conflits dans les organisations. Ce concept m'aide énormément à sortir de la personne et le problème. Plutôt nommer le problème, c'est-à-dire on va peut-être l'appeler violence relationnelle, par exemple, entre deux personnes ou dans une équipe. Et puis ensuite, on va faire solidarité ensemble pour chasser violence relationnelle de la relation ou de l'équipe. Donc ça, c'est quand même un peu plus vertueux que de dire ben, c'est lui le problème ou c'est elle. Donc les concepts, on a pu les adapter dans les organisations. Les premiers à être formés ont beaucoup contribué à faire du coaching narratif, en fait.
Tu t'es formé en fait auprès du fondateur, en France ou aux États-Unis?
Alors je ne me suis pas formé auprès du fondateur Michael White, plutôt David Epstein qui est venu nous former après. Moi j'ai été formé par Pierre Blanc-Sanoun, qui était un des premiers Français à être formé chez Mediat quand Mediat a reçu Michael White. Puis il a vu Michael White, moi je ne l'ai pas vu parce qu'il est mort en 2008. Comme j'ai choisi Pierre Blanc-Sanoun comme superviseur, donc c'est lui qui m'a fait découvrir les pratiques narratives en l'éprouvant sur moi. Après, je me suis formée un peu chez Mediat et puis après, on a monté une école avec Pierre et plusieurs qui s'appelle la Fabrique Narrative. Je forme aux pratiques narratives aussi depuis 10 ans des coachs, des thérapeutes, des travailleurs sociaux. On contribue à diffuser les idées narratives.
Alors, venons-en à l'arbre de vie. Dans ton livre, tu parles de l'arbre de vie comme un médiateur entre le client et ce qu'il a à dire. En quoi cette mise à distance peut être utile, selon toi?
Moi, j'ai été formée à l'hypnose, par exemple, hein, l'hypnose ericksonienne. Donc, toutes les méthodes métaphoriques sont un peu hypnotiques, c'est-à-dire que ça libère l'expression parce que la personne met un peu de distance entre elle et ce qu'elle a à dire. Elle parle pas vraiment d'elle, elle parle de racines, elle parle de branches, elle parle de feuilles. Donc, ça l'amène ailleurs, là où il y a de la ressource, etc. Ça l'amène à lâcher un peu le mental et à mettre un filtre entre elle et ce qu'elle a à dire, en fait. Je dirais qu'une des vertus de cette méthode, c'est vraiment de libérer l'expression et d'arriver à ce que les personnes accèdent à leurs ressources.
Ça l'autorise.
Ça l'autorise, absolument.
Est-ce que l'utilisation de l'arbre de vie est appropriée pour tous les objectifs de coaching, que ce soit en individuel ou en collectif?
Honnêtement, il n'y a pas un sujet que je ne peux pas traiter avec l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des questions toutes faites avec l'arbre de vie. On a un objectif, par exemple. Il y a un jeune homme, il n'y a pas longtemps, il avait un projet, mais il n'était pas sûr de son projet. Et il me dit, j'hésite à faire pâtissier. Alors je lui dis, écoute, si tu veux, on va faire ton arbre de vie de toi pâtissier. Comme ça, on va voir si ce projet te plaît. Peut-être ça va valider ton projet ou pas. J'utilise la métaphore de l'arbre pour valider son projet. Par exemple, je vais lui dire dans les racines, comment c'est rentré dans ta vie de vouloir être pâtissier? Donc il m'a dit qu'il aimait bien faire des gâteaux avec sa grand-mère, etc. Vous voyez, je l'emmène ailleurs, là où il a les réponses. De quoi tu as besoin si tu veux suivre cette voie? Et quelles sont les qualités, les compétences que tu as et que tu pourrais mettre au service de ce projet? Et quand tu te vois pâtissier, qu'est-ce que tu te vois faire en lien avec ça? Il voulait monter une pâtisserie, etc. Et qui sont tes modèles? Les questions, je pourrais les poser sans l'arbre. Mais je vais utiliser l'arbre pour lui faciliter l'expression, parce que pendant qu'il réfléchit à ses racines, à ses feuilles, etc., ça va l'aider à lâcher un peu le mental. Parce que sinon, au début, le jeune, il va me dire « je sais pas ». Pour lutter contre le « je ne sais pas », l'arbre de vie, c'est génial.
Et alors justement, est-ce que son arbre de vie a révélé qu'il allait être pâtissier?
Oui, ça l'a beaucoup aidé. En fait, c'est un très jeune homme. Ça épaissit son projet. Parce qu'en fait, en pratique narrative, ce qui n'est pas raconté n'existe pas. Je lui ai fait raconter vraiment son projet. Maintenant, il commence à exister. Après, on a été valider ça avec un stage, parce qu'il a eu l'idée, mais il fallait qu'il voie si concrètement ça lui plaisait. Le stage lui a plu et ce qui était formidable, c'est qu'après, avec l'arbre, on a travaillé son entretien. Il avait trouvé un pâtissier pour faire son stage. Comme il avait tout mis sur l'arbre, je lui ai dit, maintenant, tu vas te présenter à travers ce que tu as mis. On va préparer l'entretien. Et puis, il avait une jolie histoire à raconter. Il a dit, bonjour, je me présente, je m'appelle un tel. Voilà pourquoi je veux être pâtissier. Quand j'étais jeune, je faisais des gâteaux avec ma grand-mère. Plus tard, je veux monter un restaurant. Voilà les qualités. Vous voyez, ça aide à construire son discours, à préparer les entretiens. Puis lui, il est fier de son projet. Il se refascine par sa vie et par son projet, en fait.
La structuration de l'arbre dont on parlera juste après permet aussi de structurer sa pensée et donc son fil narratif.
Exactement.
Tu nous as parlé d'un exemple individuel. Est-ce que tu voudrais nous parler d'un exemple collectif, peut-être?
Oui, peut-être en entreprise, du coup.
Ouais, bien sûr.
Je l'utilise vraiment beaucoup en entreprise et en collectif. Pour l'arbre de vie en collectif, c'est très joli, en fait, parce que d'abord, chacun fait son arbre.
Chaque membre de l'équipe fait son arbre.
Il y a plein de méthodes. Quand je fais de la cohésion d'équipe, souvent, c'est quoi de la cohésion d'équipe ? C'est vraiment honorer l'unité dans la diversité. Chaque personne de l'équipe est singulière, donc on va honorer la singularité de chaque membre de l'équipe, quelle est sa valeur ajoutée, quelle est sa place au sein de cette équipe. Donc chacun fait son arbre et va présenter son arbre à l'équipe, et puis après, on va travailler l'identité groupale, en fait. C'est la richesse de toutes ces singularités qui fait une équipe. Donc chacun fait son arbre, après on les affiche au mur, ça fait la forêt. On se balade un peu dans la forêt et c'est le moment du partage. Chacun va se présenter professionnellement aux autres. Et c'est le moment où on va dire à l'équipe, ben voilà ma singularité, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai déjà fait, voilà ma valeur ajoutée, voilà mes rêves pour moi au sein de cette équipe et pour l'équipe, voilà ce que j'ai besoin pour être bien dans cette équipe. Enfin, on peut aller chercher plein d'informations qu'on va partager avec les membres de son équipe parce que c'est pas toujours des informations qu'on partage, hein.
Donc chacun va s'autoriser à dire ce qu'il a envie de partager par rapport à son arbre. Il va le présenter succinctement ou en détail, c'est ça ?
Exactement. Et ce qu'il faut, c'est trouver un temps équitable à chacun. En général, c'est 10 minutes. On se balade d'abord dans la forêt et puis après, chacun est invité à présenter son arbre. Et quand chacun a présenté son arbre, souvent je demande à ceux qui ont écouté, alors quelle image ça vous donne de votre collaborateur ou de votre collègue, toute cette histoire que vous venez d'entendre ? On renvoie un miroir de comment on le voit, mais de manière très bienveillante.
Alors, quel est l'intérêt, justement, d'utiliser l'arbre de vie en équipe ? Donc, ce que j'entends, c'est que ça permet de mieux connaître chaque membre de l'équipe, mais est-ce que c'est pas un peu intrusif, justement ?
Alors, quand je dis mieux connaître, on reste vraiment dans le cadre du professionnel. D'abord, je rajoute du professionnel partout, c'est-à-dire que quelle est votre histoire professionnelle ? Quelle autre entreprise vous avez faite, par exemple ? On connaît ses collègues, mais on ne sait pas tellement quel type d'études ils ont faites, quel type d'entreprise où ils ont travaillé. Ça reste très professionnel, en fait. Il n'y a aucun moment où on va mettre du privé sur l'arbre de vie.
Donc, on ne dit pas « je suis marié, j'ai 3 enfants ».
Non, ils répondent à des questions que je pose. Donc, c'est quelle est votre histoire professionnelle ? Quels sont vos besoins professionnels ? Quelle est votre valeur ajoutée professionnelle ? Quels sont les rêves, les projets que vous nourrissez pour vous au sein de cette équipe et pour cette équipe ? Quels sont vos mentors ? L'outil ne remplace pas le coach. Je sais que je vais chercher un style d'information, je prépare mes questions un peu à l'avance, en fonction du thème que j'ai à travailler. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des uns et des autres, professionnellement. Plus on se connaît, plus on s'apprécie, et plus on s'apprécie, plus on partage ce qu'on a partagé ensemble. C'est un peu ça l'idée, hein.
Et du coup, ça fait émerger quoi ? Un meilleur respect peut-être ? Une meilleure appréciation des diversités de chacun ? Qu'est-ce que ça fait émerger ?
On entend les besoins de chaque membre de l'équipe. Par exemple, il y en a un, il va dire, moi, ce qui est important pour moi, c'est la transparence. Donc, je vais demander à l'équipe, alors pour être bien avec lui, comment il faut faire ? C'est bien d'échanger des messages de valeur. Dans les branches, ils mettent quand même quelles sont leurs attentes pour eux, pour l'équipe. Hein, donc, plus d'autonomie, plus de solidarité, etc. Souvent, après les arbres, on va reprendre un peu ce qu'il y a dans les branches. On va faire des sous-groupes et on va les faire travailler à comment faire vivre tout ça ensemble. Quelles sont vos idées pour qu'il y ait plus de solidarité dans l'équipe, etc. C'est fait que pour aller chercher de l'info qu'on va travailler après, en fait.
Donc, ça fait émerger des prises de conscience.
Exactement. Déjà, on partage des choses. C'est bien de le savoir parce que s'il ne me dit pas que la transparence est importante, je ne peux pas le deviner. Hein. Et puis ensuite, les idées qu'ils ont pour être mieux, on va les travailler ensemble. On va réfléchir ensemble à comment les faire vivre. Un autre exemple sur l'équipe, moi j'accompagne beaucoup la gestion de conflits en fait.
Situation de crise alors ?
Oui, les situations de crise, de grande crise. Souvent, l'arbre de vie n'est pas bien indiqué au moment où les gens ne s'aiment pas, parce qu'on n'a pas envie de partager son arbre avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Par contre, une fois qu'on a réglé le conflit, l'arbre de vie, c'est juste magnifique pour commencer à écrire une nouvelle histoire ensemble.
Pour enterrer l'âge de guerre ?
Exactement. Une fois qu'on a bien réglé le conflit, qu'on s'est bien parlé, qu'on l'a identifié et qu'on a mis des choses en place pour le régler, c'est souvent le moment où on va faire un arbre de vie pour enfin écrire cette nouvelle histoire ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on veut maintenant ? Comment on reconstruit ensemble l'équipe ?
Et éventuellement définir les règles de travail en commun ?
Exactement.
Et de respect, évidemment.
Là, on va construire une belle forêt.
Tu as un exemple, effectivement, d'une situation conflictuelle dans laquelle l'arbre de vie a été utilisé pour apprendre à travailler différemment ?
Je le fais pratiquement tout le temps après le conflit. Une fois qu'ils arrivent à travailler ensemble, à se parler, etc., l'arbre va nous aider à construire la nouvelle histoire ensemble. Je vais te raconter l'exemple de 4 services dans une même entreprise qui ne s'entendaient pas tellement. Mais ils avaient besoin les uns des autres, en fait.
Mais sinon, c'est pas drôle.
Voilà. On a travaillé à gérer les différends qu'il y avait entre ces 4 entités. Et puis après, je leur ai demandé de faire un arbre de vie, c'est-à-dire un arbre par service. Donc, il y avait 4 arbres, en fait. Et donc, ils avaient mis quel est notre rôle dans les racines, quels sont nos besoins sur le sol, quelle est notre valeur ajoutée dans cette entreprise par rapport aux autres services, qu'est-ce que j'attends de chaque autre service, et puis quels sont nos partenaires, nos ressources. Et donc, chacun s'est présenté sous l'angle de sa singularité, sa valeur ajoutée. Là, c'était entendable.
Et du coup, ça a permis quoi ? De fluidifier un peu les relations entre les quatre services ?
Déjà de fluidifier les relations et surtout d'entendre les besoins parce qu'on les a notés, on les a travaillés après. L'arbre de vie sert à faire émerger. Après, une fois qu'on a les mots, on va faire des sous-groupes. On a mixé les sous-groupes avec des personnes de chaque service et chacun a réfléchi aux idées de tout le monde en fait. Donc c'était très très intéressant.
C'est-à-dire, tu les as fait travailler en atelier pour qu'ils comprennent collectivement comment ils allaient pouvoir nourrir les besoins de chacune des équipes ?
Exactement. Et ils y ont réfléchi ensemble après aux idées pour y arriver et aux actions concrètes. Et après, je suis le processus jusqu'à la mise en place des actions. Et l'arbre de vie permet de faire ça très rapidement, en fait.
Du coup, c'est un accompagnement qui a duré combien de temps ?
C'était sur 3 jours. Il y avait une journée de gestion de conflits, il y avait une journée où on a consolidé un peu les choses. Et puis, il y avait une journée avec les arbres. Les arbres, on les a fait le matin, l'après-midi, on a fait les sous-groupes.
Et tu as eu des nouvelles de ces 4 équipes par la suite ?
Il y a toujours des petites choses, mais au moins, maintenant, ils s'entendent. Puis, ils ont mis en place des choses. Ils n'attendent pas qu'il y ait un conflit.
Ils ont trouvé un moyen de réguler.
Oui, c'était une des idées qu'ils avaient, en fait. C'était de se retrouver régulièrement pour réguler et se parler.
Évoquer les irritants.
Voilà, exactement. Je vois que tu connais ça.
Quels sont les prérequis pour un bon usage de l'arbre de vie ?
Alors honnêtement, je pense que tous ceux qui sont formés à l'accompagnement peuvent utiliser l'arbre de vie. Alors moi, je propose une journée de formation pour qu'on en parle, pour qu'on optimise un peu comme je l'utilise depuis 10 ans. Je l'ai amené un peu partout, donc je peux en parler. Il ne faut pas forcément être formé aux pratiques narratives pour l'utiliser. Évidemment, si on est formé, c'est pas mal. Parce qu'effectivement, la posture est très importante et les questions sont très importantes. En pratique narrative, on prend grand soin des questions. Comme le dit David Epstein, il faut construire des questions qui rendent les gens dignes. Donc on fait très attention aux questions qu'on pose et on ne retraumatise jamais. Ça s'appelle arbre de vie parce que c'est accompagné du côté de la vie. Donc souvent, avec l'arbre de vie, on peut se retrouver avec des traumas. Hein. J'ai eu un burn-out, ah bon, t'as eu un burn-out, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Non, en pratique narrative, on fait pas ça. On entend le burn-out, s'il faut, mais on va s'intéresser plutôt à comment t'as survécu à ça. On va pas aller chercher ce qui lui est arrivé, parce qu'on va rien lui apprendre. Hein. Il sait très bien ce qui lui est arrivé. Mais par contre, là où on peut lui apprendre quelque chose, c'est de l'explorer sous l'angle des résistances. Comment il a résisté à ça ? Qu'est-ce qu'il a mis en place ? Qu'est-ce qu'il a aidé ? Sur qui il a pu compter ? Et en quoi il est différent aujourd'hui d'avoir visité ce pays du burn-out ? Parce qu'il en est revenu. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il a fait pour revenir. C'est ça les pratiques narratives. On va vraiment s'intéresser aux résistants qui en chacun de nous.
Il y a beaucoup d'exemples dans ton livre accompagné avec l'arbre de vie. Il y en a un qui m'a beaucoup touché, c'est l'histoire d'une jeune femme que t'accompagnes et qui pose sur son arbre à un moment donné le mot viol.
Oui, c'est pour ça que je dis faut faire attention, on n'est pas psy, hein. Mais à la fois c'est magnifique qu'elle pose ce mot.
Qu'elle ait le courage de le faire, oui.
Elle a le courage de le faire, je ne vais pas faire comme si je ne l'avais pas vue, ni entendue. Je la remercie vraiment du cadeau qu'elle me fait parce que c'est un signe de confiance. Je m'assure qu'elle a un espace pour en parler.
Thérapeutique, tu veux dire ?
Voilà, elle m'a donné un élément du contexte pour comprendre. C'est une jeune fille qui avait un problème de phobie sociale. Elle m'a donné l'élément fondamental, mais on ne s'y est pas attardé en fait.
Oui, mais c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que ça libère la parole.
Exactement. Elle me donne un élément de contexte. Sinon, j'aurais jamais compris pourquoi elle sort pas. Elle m'a donné une clé importante.
Et comment t'as pu l'accompagner par la suite ?
Bien sûr, il n'y a pas eu que l'arbre de vie. Mais l'idée avec cette jeune femme, qui voulait être médecin d'ailleurs et qui est médecin aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à lui trouver la force de sortir. Elle avait 18 ans et elle sortait pas toute seule de chez elle. Donc ses parents l'amenaient à la fac, la ramenaient, etc. Enfin, il fallait qu'elle gagne en autonomie et qu'elle dépasse un peu ses peurs. Elle avait un psy, elle travaillait avec lui. Et puis avec moi, on a honoré toutes ses petites résistances, tout ce qu'elle avait déjà mis en place, tout ce qui l'aidait, etc. Ça va un peu mieux hein, quand même. Cette jeune fille parlait pas beaucoup, donc l'arbre de vie nous a aidé à faire émerger des mots, parce que sinon elle parlait pas beaucoup, oui.
Libérer la parole.
Oui, oui.
C'est intéressant aussi cette approche qui consiste à regarder le verre à moitié plein, au fond, et pas le verre à moitié vide.
Alors ça, c'est très narratif. On va s'intéresser au plein des gens. On a le choix de regarder une personne pleine de quelque chose ou en manque de quelque chose. Ses parents l'amenaient dans mon cabinet. Elle était pomponnée comme une jeune fille qui va en boîte de nuit, quoi. C'était assez étonnant. Je me dis, mais elle est mignonne comme tout, elle se maquille alors qu'elle sort pas. Le postulat de base, c'est que les gens m'ont pas attendu. Et elle a 18 ans, donc elle a déjà forcément fait des choses. Quand on lâche pas, on a de beaux petits cadeaux. Un jour, elle m'a dit que pour sortir, de temps en temps, elle demande au couple voisin de sortir leur enfant. Elle dit, avec le petit du voisin, j'ai pas peur de sortir, parce qu'on va pas m'embêter.
Quand elle joue au babysitter, ça passe.
Oui, c'est pas tellement qu'elle a envie de faire la nounou, elle a envie de sortir, mais du coup, elle veut faire des courses, ben elle va amener le petit. C'est une manière qu'elle a de se protéger, d'affronter l'extérieur. C'est le petit qui la protège, en fait.
Tous les coachs formés au coaching pourraient...
Oui, sont à même de pouvoir utiliser une métaphore. L'arbre de vie, il faut qu'on ait d'intention pour le faire. Mon intention, c'est de valider un projet. je vais poser des questions de validation. Mon intention, c'est de sortir la personne de l'isolement parce que je la sens très seule. Ben, je vais plutôt travailler les feuilles parce que les feuilles, c'est les personnes. Donc, je vais lui demander qui sont tes alliés, etc., qui a pris soin de toi. Il faut quand même qu'on ait une intention pour faire l'arbre de vie. Il n'y a pas de chemin pour celui qui ne sait où aller. La seule chose que je dis aux personnes que je forme, quand vous faites l'arbre, il faut savoir pourquoi vous le faites. Et l'arbre ne vous remplace pas. Que vous avez une intention, suivez votre intention et l'intention va générer les questions.
Alors d'ailleurs, l'arbre s'utilise plutôt en début, au milieu ou en fin de coaching ?
Les trois. Je peux le faire en début, comme avec cette jeune fille, pour faire connaissance, parce qu'elle parle pas beaucoup. Je peux le faire au milieu, parce que je suis bloquée dans un accompagnement. Je dis, tiens, je vais faire l'arbre, ça va nous ouvrir des pistes, peut-être. Je peux le faire à un moment pour un thème. Par exemple, avec les professionnels, j'aime bien travailler leur identité professionnelle, le type de manager qu'il est, par exemple, etc. Ça peut être au milieu d'un coaching. Et puis sinon, quand je l'ai pas fait, souvent, je le propose à la fin.
Sous forme de bilan, alors ?
Oui, je dis, ben voyez, on a passé quelques mois ensemble, c'est comme un voyage. Je vous propose qu'on fasse un arbre de vie pour voir un petit peu ce qu'on ramène de ce voyage qu'on a fait ensemble. Donc, qu'est-ce que cet accompagnement vous a fondamentalement appris ? Quelles sont les forces que vous avez identifiées ? Et qu'est-ce que ça vous a donné envie de mettre en place ? Sur qui vous allez pouvoir compter maintenant ? C'est des questions de bilan, en fait.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la formation nécessaire pour le coach qui souhaite utiliser l'arbre de vie ? Donc, t'en proposes une. Est-ce que tu peux nous détailler ce qui est proposé ?
En général, c'est une formation d'une journée. Il y a quatre étapes à l'arbre de vie. Donc, on va visiter les quatre étapes. Donc, c'est-à-dire, ils vont réaliser leur arbre. Souvent, je propose de réaliser l'arbre de leur identité professionnelle. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est un sujet qu'on peut travailler tous ensemble. Et puis ensuite, on va faire la forêt. Il y a l'arbre de vie, il y a la forêt de vie, il y a les tempêtes de vie.
C'est quoi les tempêtes de vie ?
Alors les tempêtes de vie, c'est une question. Une fois qu'on a fait son arbre et qu'on est plus fort d'avoir fait son arbre, qu'on s'est reconnecté à ses forces, ses projets, on peut se retourner vers ce qu'on a à travailler, en fait, vers l'objectif que la personne vient travailler avec nous. Et on va lui demander qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de monter votre boîte, par exemple. Et là, on peut identifier les freins. Maintenant, on part pas de nulle part. On a des forces, on a des projets, voilà.
Le projet est ancré dans une réalité.
Voilà, est ancré dans une réalité. Donc là, ça devient possible de pouvoir anticiper les freins. Et là, on se sent pas démuni pour y aller. Et là, on a des idées. Ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est les célébrations. En pratique narrative, on célèbre beaucoup. C'est-à-dire, on peut remettre un certificat après un arbre de vie, comme un diplôme qui honore les forces, etc. Donc, on le fait pas tout le temps, mais moi, je le fais beaucoup avec les jeunes, par exemple.
Et tu remets des graines parfois ou pas ?
Non, mais c'est une bonne idée.
D'accord, donc tu remets plutôt des diplômes en fait.
Oui, en fait, c'est comme des certificats très personnalisés. Je reprends les mots qu'il y avait dans l'arbre pour honorer ses forces.
Pour valoriser le travail effectué en fait.
Exactement, et puis c'est un ancrage en fait. Parce que l'arbre de vie, c'est une manière d'aller au secours des mots. Quand on parle, les mots, on ne sait pas où ils vont. Là, au moins, on les a mis quelque part. La personne, elle repart avec son arbre, avec les mots qu'il y a dessus, comme une synthèse du travail qu'on a fait ensemble. Et ça, elle va le garder.
J'imagine qu'il y a une certaine fierté une fois que l'arbre de vie est effectué.
Je ne sais pas s'il y a une fierté, mais c'est vraiment vers quoi je me retourne quand j'ai besoin de force. Donc l'arbre de vie, c'est un condensé de force. Tu te rends compte, la personne, elle vient pas de nulle part, elle a des besoins, elle a des forces, elle a des projets. Elle n'est pas toute seule au monde. Quand on a fait l'arbre, waouh !
Je suis ancré, je suis fort.
Ah ouais, ouais, ouais. En pratique narrative, on n'attaque jamais le problème à l'endroit du problème. Parce qu'à l'endroit du problème, tout est problème. Donc souvent, il faut emmener les personnes ailleurs, là où elles ont des forces, etc. Après, on se retourne vers le problème. C'est pas mal de travailler comme ça. Parce que souvent, on demande aux gens de se retourner tout de suite vers le mont Kilimandjaro.
Oui, oui, oui. Affronter ses peurs, ce qui paraît effrayant, en fait, de faire ça comme ça.
Voilà. Ils sont découragés avant d'y aller, en fait. Ce qui est bien, c'est de passer une ou deux séances à honorer ses forces. Mais pour ça, il faut le dire aux gens comment on bosse. Sinon, ils comprennent pas qu'on n'attaque pas le problème direct. Souvent, je leur dis, si ça vous va, on va passer une ou deux séances déjà à voir quelles sont vos forces pour savoir sur quoi on va s'appuyer pour aller atteindre votre objectif.
Y a-t-il une supervision particulière pour un coach qui utilise l'arbre de vie dans sa pratique ?
Je pense pas qu'il y ait une supervision particulière parce que ça serait quoi ? Ça serait pour mieux utiliser l'arbre de vie ? Non, parce que quand on va voir un superviseur, c'est pour raconter ce qu'on fait avec une personne, éventuellement les difficultés. Non, je pense pas qu'il y ait une supervision particulière. Par contre, moi qui forme, on m'appelle souvent, on m'envoie souvent des mots pour me poser des questions. Moi, j'ai jamais eu besoin de superviseur par rapport à l'arbre de vie. J'ai besoin d'un superviseur en général, mais pas pour un outil que j'utilise en particulier, non.
Découvrons à présent l'extrait sonore que tu as choisi pour faire une pause dans notre entretien.
Moi, je crois profondément, plus pour la forêt que pour l'arbre d'ailleurs, plus pour l'ensemble que pour la partie, je crois à l'aspect de refuge. Je crois que la forêt est un refuge. D'ailleurs, on dit prendre le maquis, on dit recourir aux forêts quand on veut se cacher. En ce moment, il faut savoir qu'il y a par exemple une guerre qui se passe en ce moment en Arménie avec des troupes turques et azéries qui incendient les forêts. parce qu'ils savent que c'est là où se cachent les partisans et les maquisards. On incendie la forêt parce que la forêt est le refuge des âmes perdues, des résistants et parfois des âmes errantes comme des chevaliers du Moyen-Âge.
Alors c'est un extrait du magazine 28 minutes de la chaîne franco-allemande Arte. Le débat du jour était le thème « Recréer une forêt primaire en Europe » avec pour invité le biologiste et botaniste Francis Allais, spécialiste des forêts tropicales, et le célèbre écrivain voyageur Sylvain Tesson. Dans cet extrait, Sylvain Tesson parle des forêts comme un refuge. Pourquoi avoir choisi cet extrait, Dina ?
Moi, j'aime beaucoup Sylvain Tesson, déjà. Et j'aime bien sa manière de parler des arbres. C'est très joli ce qu'il dit sur la forêt comme un refuge.
Et ça te parle ?
Ah ouais, ça me parle énormément.
Pour toi aussi, c'est un refuge, la forêt ?
Non, je dirais pas ça comme ça, mais en tout cas, ça m'apaise. Je vais pas m'y cacher, mais ça m'apaise énormément.
Dans la suite de l'interview que je mettrai en lien sur le podcast, il y a toute une discussion sur le projet de recréer une forêt primaire en Europe, avec je crois 70 000 hectares qui veulent replanter entre la France et l'Allemagne de mémoire. Ça te parle aussi ce projet-là ?
Bien sûr que ça me parle, mais comme tu m'avais demandé de choisir un extrait, c'était vraiment ce petit bout avec Sylvain Tesson. Et je l'ai recherché parce que ça m'avait bouleversé ce qu'il avait dit. La forêt comme un refuge, on dit prendre le maquis, en fait, il explique ça un petit peu, que la forêt peut protéger et cacher des gens qu'on veut attraper.
Alors, prendre le maquis, c'était utilisé notamment dans la Deuxième Guerre mondiale. La résistance était un moyen de se planquer, en fait.
Oui, dans les pratiques narratives, où on s'intéresse beaucoup aux résistances.
Aux résistances ou aux résiliences ?
On aime bien dire résistance, c'est-à-dire comment les personnes résistent à ce qui leur arrive, en fait. Et notre curiosité, elle va vraiment là. C'est-à-dire que vraiment, ça nous intéresse énormément de savoir comment ils résistent à leurs histoires. Et souvent, elles ne le savent pas, donc on va vraiment faire exister ça.
Bon, en même temps, le concept de résilience, il est français. Hein. C'est Boris Cyrulnik qui a inventé le concept de résilience. Donc
oui.
C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas intégré aux pratiques narratives anglo-saxonnes.
C'est possible.
Reprenons le cours de l'entretien. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots à quoi correspondent chacune des parties de l'arbre ? Les racines.
Les racines, ça représente un peu le passé. C'est-à-dire que comme l'arbre de vie est censé représenter nos forces et notre vie, les racines, c'est le moment où on se retourne et on regarde ce que la vie nous a appris. La personne, elle part pas de nulle part. Et peu importe l'âge qu'elle a, elle a de l'expérience sur sa vie. La vie lui a déjà appris des choses. Si par exemple, la personne, elle vient relever un défi, eh bien, dans les racines, je vais lui demander quels sont les défis que vous avez déjà relevés dans votre vie. C'est une manière de lui dire qu'elle en a déjà relevé.
Oui, c'est de l'aider aussi à prendre conscience qu'elle est déjà en capacité de relever le défi qu'elle s'est fixé.
Exactement. Les gens en situation de stress, c'est comme s'ils repartaient de zéro à chaque fois. Là, on va lui montrer que dans sa vie, elle a déjà appris des choses. Elle s'est déjà réinventée peut-être. Enfin, en fonction de ce qu'elle a à travailler, si elle veut par exemple changer de boulot, je vais lui demander quelles sont toutes les fois où vous êtes réinventée. Même si ce n'est pas dans le boulot, peut-être qu'elle a divorcé, peut-être qu'elle a changé de pays. Qu'est-ce que la vie m'a déjà appris ?
Ensuite, il y a le sol dans lequel effectivement s'épanouissent les racines.
Exactement, le sol, il faut l'arroser pour que l'arbre pousse. Donc on va demander de quoi on a besoin d'arroser cet arbre pour qu'il soit fort, que la sève circule, etc. Donc c'est un peu les besoins. C'est plutôt les valeurs précieuses qu'on aime voir vivre dans sa vie. Et si elles ne sont pas là, ça va être difficile pour nous.
Qu'est-ce qui nous nourrit ?
Qu'est-ce qui nous nourrit ? Qu'est-ce qui est précieux pour nous ?
Ensuite, il y a le tronc.
Le tronc, c'est la force de l'arbre. Qu'est-ce qui fait que l'arbre est fort et droit et solide ? Donc, c'est toutes les qualités, les compétences, les valeurs, les talents.
Les branches ?
Alors, les branches, elles poussent et elles montent vers le ciel. Les racines, on était dans le passé. Le sol et le tronc, on est dans le présent. Dans les branches, on est dans le futur. On va regarder devant et puis on va dire qu'est-ce que je veux pour ma vie ? C'est quoi les rêves, les projets, les espoirs que je nourris pour ma vie professionnelle, ma vie tout court ? Donc là, on va regarder devant et on va identifier ces projets.
Ensuite, il y a les feuilles.
Les feuilles, c'est on sort la personne de l'isolement. C'est-à-dire, on va aller identifier, on appelle ça en pratique narrative, le club de vie. C'est un peu son club de soutien. David Denborough, c'est lui qui a initié l'arbre de vie. Il travaillait avec Michael White. Et lui, il pose une seule question au niveau des feuilles. Il dit, qui un jour t'a accordé de la valeur ? Ça peut être les alliés en entreprise. C'est tous ceux qui ont une influence positive dans notre vie, vivant ou pas. Ça peut être un héros, ça peut être Zizou.
Donc ça peut être aussi des personnes que l'on connaît ou des personnes que l'on ne connaît pas, mais qui nous inspirent.
Des auteurs qui nous inspirent, voilà.
C'est pour aussi montrer à la personne qu'elle est entourée.
Exactement, parce que les problèmes isolent les gens. Même si on n'est pas seul, on se sent seul par rapport à ce qu'on vit. Donc on va aller recréer du lien et on va identifier toutes les personnes importantes de notre vie.
Qui soutiennent la personne sur son chemin.
Qui soutiennent ou en tout cas qui l'ont soutenue ou qui ont une influence positive dans sa vie.
Et il y a les fruits.
Alors les fruits, c'est les cadeaux. Qu'est-ce que je vis comme une chance, comme un cadeau dans ma vie ? Puis ça peut être autre chose en fonction de ce qu'on a envie d'aller chercher comme information. Donc ça peut être les souvenirs agréables, ça peut être ce qu'on veut en fonction de ce qu'on a à travailler.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'imagine que tu adaptes les questions en fonction de la difficulté de la personne à remplir telle ou telle partie. Parce qu'il y a certains clients qui peuvent un petit peu galérer à remplir, par exemple, le tronc.
Alors, c'est assez rare en ce qui me concerne. Je ne vais pas me la péter. C'est assez rare en ce qui me concerne. Pourquoi ? Parce que je vais commencer par lui demander dans les racines, par exemple, quels sont les défis que vous avez relevés. Et quand on va monter, ces défis que vous avez relevés, par exemple, il va m'en raconter un, n'importe quoi, j'ai monté une entreprise, etc. Qu'est-ce que le fait d'avoir monté cette entreprise a développé en vous comme compétence et comme qualité ? Je vais partir, en fait, d'une expérience et on va ouvrir et puis on va voir ce qu'il y a dedans, en fait. Qu'est-ce que ça dit de vous ? Eh bien, que je suis entrepreneur, que je suis déterminé. Chaque mot est comme un cadeau sur l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un cadeau ? On l'ouvre, on regarde ce qu'il y a dedans. Et souvent, le savoir est encodé dans des histoires. Une fois qu'on raconte une histoire, on a accès à ce que ça recèle comme savoir. Donc non, c'est assez rare. Alors avec les enfants un peu, parce que c'est un peu compliqué pour eux de se trouver des qualités.
Donc avec les enfants, c'est un peu plus difficile et parfois, c'est ça ?
Qui se donnent des qualités, mais ils s'en trouvent quand même. Ou alors ils vont s'en trouver, oui, je suis gentil. Pas vraiment les qualités qui vont les aider beaucoup, même si c'est bien d'être gentil. C'est à moi de les aider quand ils racontent une histoire. Ben alors, qu'est-ce qu'il y a comme compétence dans ce que tu viens de me raconter ? Qu'est-ce que ça dit de toi ?
Intuitivement, je me disais que les enfants, ça doit être assez facile de les faire dessiner. Est-ce que c'est tout aussi simple avec des ados ?
Non. Les ados, c'est les rois du « je ne sais pas ». Donc, pour lutter contre le « je ne sais pas », l'arbre de vie, c'est pas mal. Il faut leur expliquer pourquoi on fait les choses. En général, ils ont peur de faire un peu bébé, de dessiner. Mais une fois qu'ils l'ont fait, ça va. Donc, j'insiste toujours un petit peu, et puis ils le font. Et puis, une fois qu'ils l'ont fait, ils sont plutôt contents.
Est-ce que certains de tes clients sont passés d'un étonnement ou d'un scepticisme à une conviction de l'utilité de ce que leur a permis de travailler l'arbre de vie ? Parce que j'imagine que certains peuvent être un petit peu déroutés quand tu leur dis « voilà, il va falloir dessiner un arbre ». Est-ce que ça t'est arrivé ?
Non, honnêtement, quand je présente l'arbre, c'est que je me fais confiance et que je sens que c'est possible. Il y a une fois où j'étais un peu déstabilisée, c'était en prison. On m'avait demandé de faire un travail avec un groupe de détenus. C'était des jeunes détenus et ils avaient des courtes peines et donc ils devaient trouver un projet en sortant. Qu'est-ce qui les maintient du côté de la vie aussi ? Ça s'appelait Oxygène, ce programme. Et quand je les ai vus arriver dans la salle, honnêtement, j'ai dit, je ne sais pas si je me sens de leur faire dessiner un arbre de vie. Ces jeunes hommes tatoués là, qui arrivaient, etc. Je me suis dit, oulala.
Baraqué, tu veux dire, c'est ça ?
Oui. Baraqué et tatoué. Je ne sais pas, subitement, je me suis dit, est-ce qu'ils vont vouloir dessiner, etc. Ils l'ont fait, en fait. Et ils ont pris beaucoup de plaisir à le faire.
Donc, quel que soit le contexte, c'est possible ?
Alors, c'est possible, là, en l'occurrence. Quand on dit pourquoi on le fait, les personnes se prêtent au jeu. Je t'assure, David, ce qu'on arrive à obtenir comme information avec l'arbre de vie en 1h30, il faudrait 5 séances d'1h30 pour l'obtenir. Tu peux pas savoir le nombre d'informations qu'on obtient en 1h30. Après, cette information, il faut les traiter, évidemment. Un minimum de temps pour avoir un maximum d'informations, c'est quand même incroyable.
Alors moi, je me dis qu'en individuel, l'usage semble assez intuitif. Mais en collectif, comment et quand utiliser l'arbre de vie ? Tu nous as parlé tout à l'heure d'une équipe, suite à un conflit, une fois que le conflit est réglé, de le proposer pour finalement solidifier les relations et pacifier les relations. Quels sont les autres cas récurrents où l'arbre de vie peut être utile en collectif ?
Alors moi, je l'utilise beaucoup en gestion de projet. C'est-à-dire, on va faire l'arbre du projet, un seul arbre. Souvent, on met une équipe ensemble sur un projet. Ils ne bossent pas ensemble, mais c'est les métiers qu'on met ensemble sur un projet. Au démarrage du projet, on va faire l'arbre du projet pour réunir l'équipe et faire de la cohésion de cette équipe pour s'entendre sur ce projet. Par exemple, dans les racines, on va leur demander, à votre avis, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez ensemble sur ce projet ? De quoi vous avez besoin chacun pour avancer sur ce projet ? Qu'est-ce que vous amenez comme valeur ajoutée sur ce projet chacun ? Et qu'est-ce que vous attendez les uns des autres, etc. Donc on va faire l'arbre du projet. Ça marche très très bien.
C'est mettre un peu tout le monde à la même page.
Oui, et qui s'écoute. Parce que souvent, on demande aux gens de faire des choses ensemble sans avoir pris le temps de les réunir et qui s'écoutent sur les besoins, les attentes, etc. Donc c'est un temps pour s'écouter et puis honorer le projet. Ça marche bien de faire l'arbre du projet. Je le fais souvent.
Est-ce que tu as un exemple peut-être qui te vient là en collectif ?
Ben, ils sont assez similaires en fait. J'ai accompagné il n'y a pas longtemps des binômes par exemple. Dans une entreprise, il y avait 8 chefs de service qui ont 8 adjoints et on a réuni ces 8 binômes et ils ont fait un arbre par binôme. C'est de l'arbre du binôme en fait pour honorer comment on travaille ensemble et comment le fait d'être deux est mieux que d'être seul. C'était vraiment qu'est-ce que le fait d'être ensemble permet, etc. Enfin, on avait vraiment travaillé le binôme parce qu'ils avaient du mal un peu à bosser ensemble et à voir leur complémentarité.
Et qu'est-ce que ça a permis de faire émerger ?
De la cohésion entre les binômes. Qui s'écoutent, qui voient un peu les talents de chacun, comment ils se complètent, ce qu'ils attendent l'un de l'autre, etc.
Dans la fin du livre notamment, tu évoques le fait que tu utilises l'arbre de vie aussi dans les contextes hospitaliers et dans le milieu carcéral que tu nous as partagé tout à l'heure. Cette pratique est donc appropriée à la plupart des contextes ?
En tout cas, moi je l'ai amené partout où je suis allée. En prison, je l'ai amené. On m'a demandé de travailler dans le milieu hospitalier, je l'ai amené aussi. Oui, effectivement, il peut s'adapter partout où les gens ont besoin de retrouver de la force, de redonner du sens à leur parcours, de sortir de l'isolement, etc. Oui, oui, il s'adapte facilement à tous les milieux, même dans les familles. C'est tellement universel, un arbre, tout le monde s'est dessiné un arbre.
Cette pratique de l'arbre de vie semble tellement puissante, tellement efficace au fond. C'est à se demander pourquoi c'est pas plus utilisé.
Les méthodes métaphoriques, elles existent depuis très longtemps. Il y a l'arbre généalogique, l'arbre des compétences. L'arbre tel que je l'utilise et dont je parle dans le livre, c'est l'arbre de vie avec les idées narratives. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau. En tout cas, je suis une des premières en France à avoir utilisé cette méthode initiée par David Denborough et Nazélé Noubé à l'époque. Ça fait 10 ans qu'il est arrivé en France.
Il n'y a pas tant de coachs que ça qui utilisent l'arbre de vie, semble-t-il.
Alors, de plus en plus. Faut dire que j'ai formé beaucoup de personnes. Toutes les écoles de coaching qui forment au coaching en France, à un moment donné, entendent parler des pratiques narratives de plus en plus et de l'arbre de vie.
Donc ça se démocratise, c'est en cours.
Oui, oui, absolument.
Alors on arrive presque à la fin de l'interview, Dina. Quel rôle les coachs utilisant l'arbre de vie ont à jouer dans la société en pleine mutation qui est la nôtre ?
Moi, de plus en plus, les thèmes que j'ai à travailler en entreprise, c'est de ramener vraiment l'humain au cœur de l'entreprise. Donc, je trouve que c'est une magnifique méthode pour honorer l'humain, pour s'intéresser aux gens, pour être curieux des gens et de leurs forces, etc. Donc, je pense que c'est une méthode qui va bien avec tout ce qui se fait en ce moment. Là, en ce moment, on nous demande beaucoup, nous qui formons aux pratiques narratives, de venir former au sein des organisations les managers avec les idées narratives. Comment diffuser ces idées auprès de managers pour qu'ils managent un peu autrement. Quand on est manager, on accompagne une équipe, donc on n'est pas coach, mais on peut le faire sans voir que la personne est le problème, on peut leur donner quelques clés, et on nous demande ça de plus en plus.
Que souhaiterais-tu que les auditeurs retiennent de notre entretien, Dina ?
Peut-être leur donner envie d'en savoir un peu plus sur l'arbre de vie, déjà, et puis l'envie de l'utiliser, peut-être. Moi, ce que j'inviterais à faire, c'est déjà de l'utiliser sur eux-mêmes. C'est bien d'avoir éprouvé l'arbre de vie sur soi pour voir un petit peu l'effet que ça fait sur nous, parce qu'on peut aller très vite, très profond avec l'arbre de vie. Donc c'est bien de l'utiliser sur soi et puis de l'utiliser sur ses clients. Moi, quand je vois ce que ça produit avec les personnes que j'accompagne, je suis ravie à chaque fois que je peux en parler, parce que je me dis que les personnes qui l'utiliseront, elles vont aider vraiment à ce que les personnes se refascinent un peu par leur vie. C'est un peu ce que ça produit quand je l'utilise, donc plus on est, mieux c'est.
Est-ce que tu veux nous parler des prochains projets que tu as ?
J'ai à cœur aussi que les gens puissent parfois s'accompagner eux-mêmes, ceux qui n'ont pas accès au coaching.
Donc justement, puisque je l'ai sous les yeux, mon arbre de vie, dessiner les moments importants de sa vie à la maison Hachette, dans la collection Mes ateliers de vie. Donc là, c'est de l'auto-coaching en quelque sorte.
Voilà, exactement. J'ai recensé les 10 thèmes que les gens pourraient rencontrer dans une vie. Donc c'est restaurer l'estime de soi, monter sa structure, la transition de vie, préparer sa retraite. Je le dis dans le désordre.
Ces différentes situations auxquelles peuvent être confrontées les personnes, et l'invitation, c'est de faire un arbre de vie en suivant un protocole qui est décrit.
Voilà, donc là, j'ai préparé des questions spécifiques pour ceux qui ont envie de vivre l'expérience et de se le faire soi-même ou de le faire à leurs proches.
Alors à présent, écoutons la chanson que tu as choisie et qui incarne symboliquement le thème de cet épisode.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi, tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Il s'agit de la chanson « Auprès de mon arbre » de Georges Brassens, sortie en mars 1956 sur l'album « Je me suis fait tout petit » qui est le 4e album de l'artiste. Pourquoi ce choix, Dina ?
Alors j'adore Brassens, bien sûr. Alors je ne sais pas si c'est écouter cette chanson qui m'a donné envie de m'intéresser aux arbres. « Auprès de mon arbre » et toutes les chansons de Georges Brassens ont bercé mon enfance.
Depuis le début de l'entretien, je vois un sourire. Tu as vraiment un visage qui s'éclaire quand tu parles de ta pratique et de l'arbre de vie. Et il y a un autre élément, c'est que quand tu m'as envoyé le livre pour que je prépare l'entretien il y a quelques temps, tu m'as mis une dédicace, bien sûr. Et à côté de ta signature, tu as dessiné un arbre.
Alors fais voir. Oui, parce que c'était le thème.
C'était le thème. Mais il y a quelque chose qui t'anime vraiment, en fait. Ça te met en joie.
Écoute, vraiment, cette méthode me met en joie parce que ça s'appelle l'arbre de vie quand même. Moi, j'aime accompagner les gens du côté de la vie, du côté du vivant, du côté de ce qui les anime. Donc oui, ça m'anime énormément. Et puis moi, j'ai fait mon arbre aussi et puis je le refais encore de temps en temps. Hein.
Mais est-ce que ce qui te met en joie, c'est notamment le fait de constater qu'avec cette pratique, avec l'arbre de vie, c'est un peu le tiercé gagnant. Tu sais que ça va permettre à la personne de décoincer une situation et d'atteindre son objectif?
L'arbre ne fait pas tout. L'arbre, ça va faire partie à un moment de l'accompagnement. Mais en tout cas, dans mes accompagnements, je guette toujours le moment où ça bascule, où la personne elle bascule du côté de l'espoir. Et bien c'est souvent au moment où je fais l'arbre. Parce que là, elle a une espèce de condensé de force et elle reprend espoir à ce moment-là parce que vraiment, on a passé 2 heures à redonner du sens, à se refasciner un peu par sa vie. Quand on explore les vies de cette manière, d'où vous venez, de quoi vous avez besoin, quelles sont vos forces, waouh, c'est comme un shoot. Enfin, les gens repartent vraiment ressourcés.
Et ça te met en joie?
Oui, ça me met en joie. Comment te dire? Pourquoi j'aimais bien Pierre Blanc-Sanoun? Je t'ai parlé de lui au tout début.
C'est ton premier superviseur?
Oui, c'est mon premier superviseur. Je sortais de nos séances sans jamais me sentir nulle. Et je me suis dit, c'est ça comme métier que je veux faire. Je veux un métier où les gens se sentent jamais nuls face à moi. L'arbre de vie m'aide à ce que les gens ne se sentent jamais nuls parce qu'on honore à chaque fois le plein. D'abord, ils sont pas nuls, personne n'est nul. Et surtout, quand on s'intéresse vraiment aux gens de cette manière-là, ils sont tous magnifiques. Puis ils sont passionnants, les gens, quand ils disent de quoi ils ont survécu, leurs forces, etc. Enfin, c'est juste incroyable dès qu'ils se racontent. Et peu importe l'âge, hein. L'arbre de vie permet ce moment de basculement vers l'espoir.
Juste avant de finir, je vais rappeler le titre de ton livre, Accompagné avec l'arbre de vie, une pratique narrative pour restaurer l'estime de soi chez Inter-Édition. Et le livre d'auto-coaching qu'on a évoqué tout à l'heure, Mon arbre de vie, dessiner les moments importants de sa vie chez la maison Hachette. Je mettrai en lien les deux livres dans les notes du podcast. Merci beaucoup Dina pour avoir participé à ce podcast.
Merci David, merci beaucoup pour ton écoute.
J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Un coach à la une.
Merci de votre écoute. Le podcast Un coach à la une est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et toutes les applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes diffusés. Continuez à nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com et n'hésitez pas à recommander ce podcast à vos contacts. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode.
Un coach à la une, une série créée par David Marion et produite par le Média des Coachs.